Alors, une fois de plus, bienvenue à notre assemblée ce matin. J'ai notre fille, notre troisième fille qui est là, la deuxième fois, et mon petit-fils Jérémy, le fils d'Élisabeth, qui est là ce matin. Alors, prions le Seigneur. Oui, bon Père Céleste, nous voulons t'honorer par la prédication de la parole de Dieu ce matin. Nous l'avons fait par la musique et les chants. Et je te prie aussi que tout le monde qui écoute ce message te rende gloire et honneur au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, dans son enseignement, le Seigneur Jésus-Christ, parmi d'autres, utilise des grands symboles pour l'engagement chrétien, qui est mon sujet ce matin, l'engagement chrétien. Alors, je crois que nous connaissons bien le premier symbole, mais le deuxième, c'est presque inconnu. Pouvez-vous les deviner dans votre esprit? Deux symboles qui symbolisent l'engagement chrétien. Le premier est bien sûr la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le deuxième est le joug. Pascal, montrez ça, s'il vous plaît. Le deuxième symbole, c'est le joug. Il y a beaucoup de personnes qui portent une croix autour de leur cou. Et on les trouve aussi sur le veston, des vestons des hommes. Et sur les clochers de l'église. Mais moi, je n'ai jamais vu une personne qui porte un joug autour de leur cou. Mais c'est aussi un symbole du christianisme. La croix, plus que n'importe croix, est le symbole du christianisme. Mais le joug, c'est presque inconnu. La croix et le joug symbolisent deux expressions différentes de l'engagement chrétien. Jésus parlait de la croix lorsqu'il disait, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il parlait de son joug lorsqu'il dit, « Prenez du joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » La croix symbolise un instrument de mort. Elle implique le sacrifice, et bien sûr, en fin de compte, la mort et le sang. Le joug symbolise le travail dur. Il est un outil de travail. Il parle de la transpiration, la peine et la fatigue. Il indique la soumission, l'obéissance et le service. N'oublie pas ces trois choses, la soumission, l'obéissance et le service. Mettez ces deux symboles ensemble, la croix et le joug, et vous avez une bonne idée de ce qui signifie l'engagement chrétien. Être engagé envers Jésus-Christ et pour lui signifie que vous êtes prêt à vous identifier avec la croix et à faire des sacrifices, à obéir et à servir. Alors, parmi plusieurs passages de la parole de Dieu, je trouve que Matthieu chapitre 11, et si vous avez votre Bible, vous pouvez chercher Matthieu chapitre 11 au verset 28. Et ce passage nous parle de l'engagement chrétien. Voici ce que nous lisons. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, j'aimerais souligner deux appels dans ces quelques versets. Il y en a deux. Et aussi, notez bien les verbes qui sont les commandements. Venez, prenez et recevez. Ce sont trois verbes qui sont très importants dans le texte. Alors, nous sommes tout d'abord appelés à une décision. Et ces paroles, dans le contexte, ont été adressées aux Juifs qui avaient beaucoup de fardeaux à cause de leur pratique, les commandements, les traditions, les cérémonies, les fêtes, etc. Et juste pour donner un exemple, dans Actes chapitre 15, nous lisons « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Ils ont voulu ajouter quelque chose pour avoir le salut éternel. Et le verset 5 dit « Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. » Et enfin, quand le verset 10 dit « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant le cou des disciples en joug qui ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Ils ont voulu ajouter quelque chose. Et ces lois, ces traditions ont pesé sur les Juifs. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est venu parmi les Juifs. Et il a dit, « Venez à moi. » Alors, la Bible dit qu'il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il y avait une promesse. Ils pouvaient trouver le repos de leur fatigue, de leurs problèmes. Une promesse qui était proposée dans le verset 28, « Et je vous donnerai du repos. » Moi, je crois qu'il s'agit de la paix avec Dieu. Parce qu'il y a une guerre, il y a une lutte entre Dieu et le croyant, le non-croyant. Et nous lisons dans la parole de Dieu, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Moi, j'ai trouvé que la guerre entre moi-même et Dieu était terminée lorsque j'ai laissé Jésus-Christ entrer dans ma vie. Et il y avait cette promesse donnée pour les Juifs et pour ceux qui ont été trouvés. Alors, je vois dans notre texte, en deuxième temps, nous voyons une image de tous ceux qui sont perdus, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas la promesse de la vie éternelle. Ils ne sont pas encore sauvés. Et le péché les rend aussi fatigués. Ils sont troublés par ce qui se passe dans leur vie. Et Jésus-Christ dit, « Venez à moi. » Et vous savez, ce n'est pas à une église, un prêtre, un rabbi, un juif, n'est-ce pas, ou un pasteur comme Michel ou Marc Desbanais. Mais Jésus-Christ a dit, « Il faut venir à moi. » Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité qui viennent au... Et nul ne vient au Père que par lui. Parfois, j'ai le problème de voir les versets que j'ai écrits sur mon papier. Mes excuses. Alors, il y a aussi un passage que j'aimerais lire, Actes chapitre 4, au verset 12, qui dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors, Jésus-Christ est le chemin. J'aimerais vous demander ce matin, alors, l'avez-vous fait? Avez-vous fait entrer Jésus-Christ dans votre vie pour le salut, pour la vie éternelle? Moi, je peux témoigner ce matin que je l'ai fait. Pendant ma jeunesse, alors, j'étais beaucoup impliqué dans les activités sportives. Je jouais au football, au baseball, au basket. Même j'ai entraîné, j'étais entraîneur d'une équipe de football qui n'a jamais perdu un match après mon secondaire. Mais je cherchais quelque chose. J'avais un vide dans mon cœur. Alors, je ne savais pas pourquoi Dieu a permis que j'avais les dislocations dans mes épaules et cela m'empêchait d'aller plus loin dans l'activité sportive, n'est-ce pas? Mais Dieu, il avait un plan. Malgré le fait que je cherchais Dieu, je n'ai pas trouvé la réponse. Et un jour, j'étais invité à une réunion dans une autre église que je n'ai pas fréquentée. Il y avait un aumônier de Philadelphie, des prisons de Philadelphie. Alors, après son message, il a terminé son message avec le verset qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et moi, Christian, j'ai dit que j'étais comme égoïste parce que j'ai dit, « Dieu, si tu peux faire ça pour moi, tu connais mon état, alors je dois être changé. » Alors, ce soir-là, j'ai laissé Jésus-Christ entrer dans mon cœur. Et j'aimerais vous demander encore, l'avez-vous déjà fait? Je dois regarder ici, le montrer là, parce que quelqu'un va lancer les pierres, peut-être, si je dépasse 30 minutes. Alors, cette vérité, c'est une grande bénédiction aussi, et c'est comme une troisième application que nous pouvons faire de ce passage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, c'est pour les Juifs, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais pour nous les croyants, c'est vraiment une bénédiction. Il y a vraiment quelque chose dans ces quelques mots-là. Venez à moi. Et si vous êtes troublés ce matin, si vous avez un fardeau, si vous cherchez quelque chose, alors venez à moi, Jésus-Christ dit. Et il dit à travers de Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, « Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors il y a un appel pour faire une décision. Mais il y a un deuxième appel pour devenir ce que j'appelle disciple. Dans les versets 29 et 30 jusqu'au verset 30, nous lisons, « Prenez mon joug sur vous et recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, comme j'ai dit dans le commencement, il y a trois verbes. Ici, il y en a deux. « Prenez » et « Recevez ». Alors, « Venez », c'est vraiment une crise. C'est un point tournant dans nos vies. Et moi, j'étais vraiment bouleversé par le fait que Jésus-Christ m'aimait et qu'il a voulu me sauver et me donner la vie éternelle. Alors, « Prenez », c'est aussi une crise, un point tournant dans nos vies. Et nous voyons par cela, je crois, pour moi c'était comme ça, c'était le début de la vie de disciple. Parce qu'à cette époque même, c'est dit que prendre un joug à cette époque a signifié que l'on devienne disciple de Jésus-Christ. Alors, c'est un joug, n'oubliez pas, de soumission, d'obéissance et de service. Et moi, je l'ai expérimenté moi-même dans ma vie. Alors, vous connaissez et vous comprenez très bien qu'un disciple, c'est quelqu'un qui apprend en vivant avec quelqu'un d'autre et en travaillant avec lui, avec son maître, celui qui le dirige. Et il met en pratique ce qu'il voit, ce qu'il comprend et ce qu'il voit, ce que son maître fait. Il reconnaît l'autorité de cette personne. Et c'était comme ça pour moi. Et j'aimerais vous demander, avez-vous pris le joug de soumission, d'obéissance et de service? Alors, moi, je l'ai fait aussi. Et pour moi, c'était pendant le temps plutôt, que nous étions en train de faire monter une maison préfabriquée. nous attendons notre premier enfant, qui était Élisabeth, que vous connaissez bien. Alors moi, j'étais dans un certain sens en train de faire monter aussi l'échelle du travail, où j'étais ingénieur des pièces attachées pour les hélicoptères. Et j'avais vraiment une bonne position là. J'ai commencé à gagner l'argent. Je viens de dire à un autre petit fils aux États-Unis au sujet des finances que j'avais deux voitures, une voiture neuve et une occasion. Après 2 ans que j'ai quitté l'école parce que j'ai fait l'économie et tout cela. Mais j'étais dans une conférence missionnaire que notre église a tenue chaque année. Et moi, j'étais face à face, Marie-André, à une décision. C'était une décision maintenant ou jamais. Alors, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et moi, j'étais touché par les paroles qui ont été dites. Et moi, j'ai constaté que Jésus-Christ ne régnait pas dans ma vie. Il n'avait pas l'autorité dans ma vie. Et moi, j'ai voulu qu'il soit le maître, qu'il me dirige. Et alors, j'ai accepté à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Cela m'a dirigé dans 3 jours. C'était pendant la fête de travail au mois de septembre. Dans 3 jours, j'ai quitté mon travail. Tout le monde a dit, Richard, tu es vraiment quelqu'un pour faire cela. Tu es fou, n'est-ce pas? Alors, dans 3 jours, j'ai fait application parce que je savais que Dieu m'a appelé à aller au collège biblique pour étudier à temps plein. Alors, ils n'ont pas accepté mon inscription le premier jour, mais j'avais un téléphone. Oui, Monsieur Nestor, vous pouvez venir étudier ici. On n'avait pas beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas eu le travail. Et comment est-ce que je vais soutenir mon épouse et le premier enfant qui devrait arriver? Mais par la foi, je peux le dire que j'ai quitté tout cela. Et amen, c'est vrai. Et j'ai suivi Jésus-Christ. Il est vraiment devenu mon disciple. Alors, vous voyez là un joug. Alors, c'est vraiment intéressant. Pourquoi le Seigneur utilise cela? Oui, comme j'ai dit au commencement, on a dit qu'à cette époque, c'était un symbole de devenir disciple. Alors, il y a une histoire qui est racontée. Un cultivateur, il avait 2 bons chevaux qui travaillaient bien ensemble, n'est-ce pas? Mais sans prendre le joug de soumission et d'obéissance, alors il ne pouvait pas savoir ce que le maître, le fermier, a voulu. C'est-à-dire que le joug les a liés les deux animaux ensemble, les attachés. Et Déborah, elle habite dans le pays des Amish, qui s'habille en noir avec les barbes. Ils ont beaucoup d'argent et tout ça en Pennsylvanie. Et je ne sais pas si vous avez jamais vu ces personnes, les Amish. Mais ils n'ont pas même quelque chose pour s'asseoir lorsqu'ils font tourner la terre. Et ils marchent derrière ces Amish. Alors, si les animaux ne sont pas attachés, liés, alors ils ne savent pas la volonté, le désir de leur maître. Mais en étant attachés, liés, et en soumettant et en obéissant pour aller à droite, aller à gauche, tout droit et tout cela, ils peuvent faire ce que le maître veut. Et vous savez, le fermier, le cultivateur peut faire son travail. C'est la même chose pour nous, les croyants, qui sont sauvés. Alors, lorsque Jésus-Christ est le maître de nos vies, lorsqu'il a une autorité dans nos vies, et nous mettons le joug de soumission, d'obéissance, alors nous sommes bien attachés à Jésus-Christ, nous demeurons en lui, alors ça marche bien pour nous. Et comme il y avait une promesse pour les Juifs là, et les personnes qui se convertissent à Jésus-Christ, la paix avec Dieu. Alors, il y a une promesse ici pour les croyants qui acceptent le joug, qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que cette promesse correspond à des versets dans Philippiens chapitre 4, au verset 6 et 7. Et il commence par le verset « Ne vous inquiétez pas de rien, mais en toute chose, faites vos soucis, vos besoins à Dieu et tout cela. » Et la paix de Dieu sera parmi vous, sera dans votre cœur. Ça, c'est la paix de Dieu. C'est plus profond que la paix avec Dieu, la paix de Dieu. Et dans un sens, c'est très, très profond. Et nous expérimentons cela lorsque nous suivons la volonté de Dieu et nous mettons en pratique le joug de sa mission. Alors, comme je dis, c'était vraiment un point tournant dans ma vie. C'était comme une crise. C'était un maintenant ou jamais. Et c'était le cas, comme nous avons vu, venez à Jésus-Christ pour le salut. Alors, cela continue quand même. Le troisième verbe, recevez, ce n'est pas un point tournant, ce n'est pas une crise, mais c'est un processus qui continue, car Dieu s'attend à ce que nous fassions du progrès, que nos vies soient changées jour après jour. Puis-je juste rappeler quelques versets, je ne ferai pas des commentaires ici, mais nous sommes exhortés dans la parole de Dieu en ce qui concerne le progrès, le fait que nous devons aller de l'avant. Le croyant, il est exhorté à croître dans la personne de Jésus-Christ. Nous lisons dans 2 Pierre 3, 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, nous sommes aussi exhortés à connaître la volonté de Dieu. Nous ne cessons de prier pour Dieu pour vous, Colossiens chapitre 1, au verset 9, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence. Alors, nous sommes aussi exhortés à travailler à la conclusion de notre salut, c'est-à-dire que nous sommes sauvés et le but de Dieu, c'est la consécration. C'est une vie changée. C'est une vie qui devient de plus en plus semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici un verset qui est un de mes favoris dans la parole de Dieu. « Ainsi, mes bien-aimés, Philippiens chapitre 2, au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. » On ne travaille pas pour obtenir le salut, mais nous travaillons une fois que nous avons le salut, la vie éternelle, à travailler à la conclusion de ce salut, c'est la sanctification mise à part pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aussi exhortés à être transformés. J'ai déjà fait référence dans un sens, mais nous lisons, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, Dieu s'attend à ce que ces choses arrivent dans nos vies. Et il nous a donné les disciplines pour nous aider à croître, à être changés, à faire la volonté de Dieu. Alors, vous connaissez très bien, il s'agit de la parole de Dieu, la lecture et l'étude et la mémorisation de la parole de Dieu. Mettre en pratique ce que nous lisons jour après jour, la prière et la communion. Alors, celui qui nous adresse ses commandements, la parole de Dieu dit qu'il est doux et gentil et humble, et il est aussi patient. Il a beaucoup d'expérience humaine parce qu'il était un être humain. Et son joug est bien accommodé, c'est-à-dire bien préparé pour chacun de nous. Être un disciple de Jésus-Christ est une vie moins compliquée que notre vie sans Christ. Moi, quand j'ai vécu dans le monde sans le Seigneur Jésus-Christ, il y avait des complications, il y avait des problèmes. Alors, je ne dirai pas, il n'y aura pas de problème lorsque nous devenons devenons chrétiens, mais c'est moins compliqué. Et il y a des moments agréables, mais aussi pour les temps difficiles. Alors Jésus-Christ est là pour nous aider, pour nous donner vraiment la paix. Alors vous avez noté, il y avait deux paix. Excusez-moi, deux paix, c'est vrai, mais il y avait deux appels différents. Un appel pour faire une décision, pour devenir enfant de Dieu, pour être sauvé. Une promesse était donnée, la paix avec Dieu. Il y avait aussi un appel pour devenir disciple de Jésus-Christ. Prenez mon joug et recevrez mes instructions. C'est un processus, les deux dernières choses. Le deuxième appel pour devenir disciple de Jésus-Christ est vraiment important. Et je souligne encore l'importance de rappeler ces trois mots, la soumission, l'obéissance et le service. Moi, je ne regrette jamais le fait que j'ai abandonné une bonne position, que j'ai laissé dans un sens la maison non pas encore terminée. Moi, je l'ai même donné notre beau-parent, le père d'Alice. Alors, il nous a donné un terrain et nous avons fait monter une maison préfabriquée. Alors, j'ai donné la maison en quittant après l'école biblique pour aller en France comme missionnaire. Et moi, je ne le regrette jamais. Et je vous encourage ce matin à penser à tout cela, à réfléchir. Alors, n'oubliez pas, et je ne vous connais pas tous, n'est-ce pas? Je ne connais pas les prénoms, je les oublie chaque semaine. Mais il y a quatre points à suivre pour commencer la vie chrétienne. Et je voudrais juste les mentionner sans peut-être chercher les textes. Mais il faut tout d'abord reconnaître que vous êtes pécheurs. Et la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut se repentir. Moi, j'avais vraiment un changement dans ma vie. C'était comme j'étais en train de marcher dans la rue Jean Talon, ici à Montréal. Et tout à coup, on a dit que le marché italien, c'est par là. Et je tourne, je fais un changement de direction. Ça, c'est la repentance au sujet du péché. Et on tourne le dos. Alors, il faut croire en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et en croyant, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux peut-être lire ce verset, Jean chapitre 1er, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors c'est la décision la plus importante que vous pouvez jamais faire. Même ce matin, vous pouvez le faire. Il y a des personnes ici qui aimeraient vous aider. Et ensuite, prenez votre joug et devenez disciple de Jésus-Christ. Alors, ma fille Deborah, elle m'a demandé combien de temps est-ce que tu vas prêcher, papa? Alors, j'ai dit moins de 30 minutes et j'ai réussi. Peut-être un jour. Merci, Marie-André. Peut-être un jour, j'aurai encore l'occasion. Alors, prions le Seigneur. Oui, Seigneur Père Céleste, merci pour l'occasion que tu nous as donnée pour écouter la parole de Dieu et de la présenter par le moyen du Saint-Esprit. Alors, nous te prions que nous guide, que Dieu nous guide dans nos vies et pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, qu'ils soient sauvés aujourd'hui. Je te prie pour la gloire et l'avancement de ton royaume. Amen.